Le journal, Jacques-Yves Molima.
Okapi. Le nouveau premier ministre sera désigné par le président de la République, Joseph Kabila, dans la majorité au pouvoir qui est restée intacte. Le vide ne durera pas longtemps. C'est la garantie que donne le secrétaire exécutif adjoint de l'AMP, Koya Gyalo Mbassete Gerengo, 5 jours après la démission d'Antoine Gizenga. Achat des vignettes au Katanga, le délai accordé aux propriétaires des véhicules expire le jeudi prochain et seulement voilà, c'est le moment de voir un engouement des acheteurs dans des points de vente à Lubumbashi. Hier, par exemple, il y avait des longues files d'attente et de bousculades. Au café. Il y a 5 jours passés depuis que le premier ministre Antoine Gizenga avait démissionné, bien qu'il n'y avait pas de délai, qu'il n'y a pas de délai constitutionnel prévu pour désigner son successeur, le chef de l'État ne va pas observer un vide pendant longtemps. C'est du moins la garantie de Koya Gyalo Mbassete Gerengo, secrétaire exécutif de l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle. Joseph Kabila, précise-t-il, désignera un nouveau premier ministre dans la majorité au pouvoir qui est restée intacte. Écoutez Koya Gyalo au téléphone de Jeff Ngoy.
Il reste maintenant que le chef de l'État puisse désigner un premier ministre dans la coalition majoritaire. Et cette coalition-là existe et elle se mesure au nombre de députés à l'Assemblée nationale.
Et le premier ministre pourrait provenir d'où?
Voilà, je ne peux vraiment rien vous dire. Le premier ministre se trouvera dans la coalition majoritaire.
Est-ce que c'est le PALU ou bien le PPRD?
Je ne peux pas vous le dire. C'est la coalition majoritaire qui fera la proposition.
Ça doit prendre combien de temps pour désigner un nouveau premier ministre?
Non, le président de la République a tout son temps, mais je crois qu'il tient compte aussi du fait qu'on ne peut pas laisser le vide du gouvernement pendant longtemps. Il n'y a pas un délai butoir.
Mais déjà, du côté de parti Lumumbiste Unifié, le PALU, on tente de préciser les choses. Le Premier ministre proviendra du PALU, conformément à l'accord signé avec l'AMP. C'est le président du groupe parlementaire du PALU, Zeno Mukwakani, qui le dit. Selon ses députés nationaux, le chef de l'État est respectueux de l'accord conclu. On écoute Zeno Mukwakani au micro de Jeff Ngoy.
L'accord que nous avons signé avec l'AMP prévoit que l'institution président de la République et la primature étant réservée respectivement à l'AMP et au PALU. C'est-à-dire que la présidence à l'AMP et la primature au PALU. Et c'est là durant toute la législature, c'est-à-dire durant 5 ans. Alors, Gizenga est parti, le PALU va proposer un autre candidat pour le remplacer.
Et qu'attendez-vous pour proposer ce candidat-là?
Ne vous en faites pas, ça va être fait d'ici là. C'est à la discrétion du parti à proposer et le président va nommer. Quand il aura nommé, vous saurez qui il va nommer.
Il doit provenir seulement du PALU. Il ne peut pas provenir de notre parti politique membre de l'AMP.
À moins qu'on casse les accords. Et je crois que le président est le symbole du respect des accords. Le premier ministre viendra du PALU.
Nous sommes le 30 septembre aujourd'hui et c'est le 10e anniversaire du mouvement de libération du Congo. Plusieurs manifestations sont prévues à partir de ce mardi jusqu'au samedi 4 octobre prochain à la Pikine pour commémorer ce 10e anniversaire. Pour François Mwamba, son secrétaire général, le MLC aurait souhaité célébrer cet anniversaire avec son président national, Jean-Pierre Bemba, présentement incarcéré à la Cour pénale internationale. Son absence est plus ressentie sur le plan moral, dit François Mamba. Écoutez-les, il est joint au téléphone par René Capita.
Vous savez, on a été décapité par la tête. Notre président se trouve à la haie au moment où nous célébrons ce 10e anniversaire. Donc tout le monde comprendra que de ce point de vue-là, nous sommes un petit peu malheureux parce que nous aurions aimé ici à Kinshasa fêter ça avec lui. Mais pour le reste, nous nous portons très bien, lui aussi d'ailleurs. C'est vraiment l'élément fédérateur qui nous a mis tous ensemble. Et quand cette personne-là est absente, ça nous affecte. C'est surtout sur le plan moral. Mais ça n'affecte pas notre fonctionnement parce que, une fois de plus, nous avons un règlement intérieur et nous avons des cadres de très haut niveau. Et nous allons célébrer donc ce 10e anniversaire sous le signe de l'avenir parce que beaucoup a été fait durant ces 10 années. Ce que nous voulions faire en 98, c'était d'établir un rapport de force avec les autorités qui étaient à Kinshasa en ce moment-là, de manière à créer les conditions de stopper la dérive totalitaire qui était en train de se dessiner après la fin du second régime.
François Mwamba, secrétaire général du MLC, il sera une fois de plus invité de Radio Okapi à 8h30, heure de Kinshasa. Et puis, les travaux en plénière hier au Sénat, après débat, la synthèse nationale des rapports cumulés des vacances parlementaires de juillet 2007 et de janvier 2008 a été envoyée hier lundi pour enrichissement à la commission spéciale. À ce propos, le sénateur entend activer des mécanismes pour que leurs recommandations soient respectées par le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Marie-Chantal Lumba.
Le Sénat s'indigne que plusieurs de leurs recommandations adressées au gouvernement ne soient pas exécutées. La Chambre haute du Parlement compte renforcer l'application des questions orales ou écrites, des interpellations ou des enquêtes. Par ailleurs, l'insécurité, l'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que la réhabilitation des infrastructures de base restent les préoccupations des Congolais recueillies par les sénateurs. Le rapporteur adjoint du bureau du Sénat déplore que certains parlementaires n'aient pas déposé leur rapport, malgré que le nom dépôt n'encourt pas de sanctions, il en demeure une obligation. Ces rapports soulignent Lola Kisanga, permettent aux sénateurs de se sentir proches des populations. Pour juillet 2007, 78 sénateurs sur 108 l'ont déposé et pour janvier 2008, seulement 38. Pourtant, le parlementaire reçoit des titres de voyage du Sénat pour lui et son conjoint afin de passer ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale. Certains parlementaires ne s'y sont pas rendus.
Entre-temps, au Kasaï occidental, le gouverneur de province propose environ 142 milliards de francs congolais pour les budgets 2009. Le projet de ce budget a été présenté ce lundi à la plénière de l'Assemblée provinciale. Pour l'exécutif provincial, une fois adopté, ce budget permettra de réaliser plusieurs priorités. Dans leurs amendements, certains députés ont suggéré à l'autorité provinciale de réduire le nombre des projets. André Kambala.
Ce projet de budget présente un accroissement de 157,6% par rapport à celui de l'an passé qui était de l'ordre de 55 milliards de francs congolais. Pour le gouverneur de province, une fois adopté, ce budget résoudra entre autres priorités les débuts de travaux de construction de la centrale Katende 1, la construction d'une école par secteur, la poursuite de travaux de réhabilitation du stade de jeunes de Kananga et les débuts de travaux de construction du stade de Kanzala à Chikapa. Dans leurs interventions, les députés de l'opposition ont fait deux constats. Selon eux, le gouverneur de province n'a pas consulté son gouvernement dans l'élaboration de ce travail. Il n'a même pas innové quelque chose par rapport à l'an passé. Côté AMP, ce projet a été salué et les souhaits et la réduction du nombre de priorités. Notons que la foule venue assister à la plénière a été indignée des colibés lancés par une équipe de femmes dénommée 5 continents à haute voix à l'endroit de certains députés. Cela s'est passé sans aucune réaction du bureau de l'Assemblée provinciale. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La suite du journal avec vous, Mireille Boukassa, reprise timide du travail hier lundi à l'hôpital général de référence Saint-Sendoué à Lubumbashi.
Après deux semaines de grève, un service minimum a été assuré dans tous les secteurs. D'après un membre du comité syndical, les infirmiers ont repris le travail suite aux menaces du licenciement qu'ils auraient reçu de la part des autorités de l'université de Lubumbashi. Rappelons que ces infirmiers ont reçu le salaire du mois de septembre payé par le gouvernement provincial, mais ils réclamaient aussi que la gestion de cet hôpital soit retirée de l'université, ainsi que la mécanisation des nouvelles unités.
Restons au Katanga, le délai accordé pour l'achat des vignettes expire ce jeudi.
Hier, déjà des longues files d'attente des conducteurs et des bousculades étaient observées devant les bureaux de vente, précisément au bâtiment du 30 juin et au bâtiment de cadastre. Question pour les usagers des routes de se mettre en ordre avec l'État pour éviter d'ennuyer les cabines.
Devant le parvis du bâtiment du 30 juin, les bousculades et chamailleries sont au rendez-vous. Visage défiguré, certains conducteurs de véhicules indiquent qu'ils sont là depuis 5 heures du matin pour avoir les premières places. La police tente de remettre de l'ordre, mais en vain. À l'intérieur du bâtiment, les membres de la commission vente des vignettes se sont organisés en deux groupes. Le premier enregistre les arrivants et l'autre établit les documents pour la délivrance des vignettes, moyennant la note de perception délivrée par une banque. Malgré cette organisation, les conducteurs accusent la commission de lenteur. Ils demandent que d'autres points de vente soient ouverts également dans les communes. À cette catégorie des clients, paiement, s'ajoutent ceux-là qui possèdent la preuve de paiement, mais n'ont pas encore obtenu de vignettes. Pour les membres de la commission, les vignettes seront livrées petit à petit. Il n'y aura donc pas de pénalité pour ceux-là avant le 1er octobre. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
L'actualité dans le Bas-Congo, c'est l'inauguration le week-end dernier à Kasangolo de la Société Générale Industrielle.
La SGI est spécialisée dans les carrières des mines. Elle a investi plus de 20 millions de dollars américains et elle emploie 250 agents, dont 95% des nationaux. Et c'est le gouverneur de province qui a procédé à cette cérémonie d'ouverture, comme nous l'explique Vicky Odia dans son reportage.
Pour le directeur général adjoint de cette entreprise sud-africaine, la présence de l'autorité provinciale à cette cérémonie était à la fois un réconfort moral et une preuve de sa détermination de sécuriser les opérateurs économiques. À l'issue de la visite qui est partie de la poudrière, la découverte, l'usine d'enrobée, la cabine de commande et la chaîne de broyage, le numéro 1 du Bas-Congo s'est dit impressionné par l'important investissement de cette société dont le siège d'exploitation est basé dans cette partie du Bas-Congo. Signalons que quelques projets à caractère social en faveur de la population locale sont déjà réalisés, notamment la réhabilitation de 5 ponts et l'axe routier qui part de la nationale numéro 1 à leur site, l'eau, l'électricité et la réhabilitation des infrastructures scolaires. Matadi, Vicky Odia, Radio Okapi.
Parlons culture à présent, Ponabana, traduisé pour les enfants Mireille.
C'est le titre du spectacle de musique qui sera présenté aujourd'hui dans la salle Jacques Brel du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Sur la scène, on retrouve un musicien belge, Lazare, qui chante avec deux musiciens congolais, à savoir le percussionniste Paul Ngoy du groupe Jafros et Eddie Mboyo du groupe La Sanza. Ce spectacle est le fruit d'une nouvelle rencontre belgo-congolaise autour d'un répertoire populaire des chants traditionnels pour enfants. Les trois artistes vont transmettre la sagesse africaine du village à travers des chants interprétés en français, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, et même dans certains dialectes de la RDC. Ce spectacle clôture donc la programmation du mois de septembre du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa.
Et puis, en plus bref, les musulmans du monde sur le point de clôturer le Ramadan, c'est mardi ici à Kinshasa. Les croyants musulmans se sont donné rendez-vous sur le boulevard Triomphal pour une grande session de prière. En dehors de nos frontières, en Centrafrique, un camion-citerne s'est renversé à près de 70 km de Bangui. Bilan 12 morts sur place et 13 autres à l'hôpital, le plus proche suite aux brûlures. Plus d'une vingtaine d'autres brûlés luttent entre la vie et la mort. Selon le chirurgien de l'hôpital, seuls trois brûlés pourront survivre. Les villageois venus récupérer le carburant ont provoqué l'incendie accidentel. Et puis, un hélicoptère de la force de maintien de la paix au Darfour s'est écrasé hier lundi. Bilan, 4 morts. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa chute. 3 des victimes sont des Russes. Les pilotes étaient soudanais, a précisé la police soudanaise. L'appareil, un hélicoptère Mi-8 apprêté par la MINUAD, la force conjointe mise sur pied par l'ONU et l'Union africaine, s'est écrasé quelques minutes après avoir décollé de la ville de Niala, à proximité du camp des réfugiés de Kalma. Sport enfin, le sélectionneur de l'équipe nationale congolaise de football, Patrice Neveu, vient d'ajouter 4 joueurs sur les 20 qu'il avait retenus pour la rencontre du 11 octobre prochain contre le Malawi à Baltir, rencontre comptant pour les éliminatoires jumelées Cannes Mondial 2010. Il s'agit de Patou Kabangou, Eric Koulokuta, Miago Pamphil et Bokungu Njoli. Donc, 24 joueurs sont retenus pour la rencontre RDC-Malawi, match que vous allez suivre en intégralité sur Radio Okapi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre particulière attention. Okapi.